Nous poursuivons ce matin notre série de prédications sur le thème « Qui sommes-nous ?», un parcours historique, théologique et pratique sur le peuple de Dieu. Nous cherchons à répondre à la question suivante : quelle est la place d'une église locale comme la nôtre dans le plan de Dieu pour le monde ? Et je vous invite ce matin à lire Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, vous trouverez ce passage à la page 1326 des Bibles bleues sur les bancs devant vous. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois, qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jean-Paul Sartre, le philosophe et l'écrivain français, a dit dans « L'être et le néant » la phrase suivante. « Être homme, c'est tendre à être Dieu. » Ou si l'on préfère, l'homme est fondamentalement désir d'être Dieu. Et je pense que sur ce point, Sartre a tout à fait raison. L'homme est un être vivant dont le projet est d'être Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, il nous est rapporté que l'homme souhaite être son propre Dieu. Ainsi, Adam et Ève, de souhaiter choisir eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. L'être humain cherche à se mettre au centre de son monde. Nous avons remplacé Dieu par notre propre personne. Nous nous mettons au centre et nous ne prenons pas en compte les autres. Les autres n'existent que par rapport à nous. C'est mon collègue, mon ami, mon voisin, mon patron, etc. Nous construisons autour de nous un empire d'autonomie. Ce qui est important, ce sont mes décisions, mes choix, ma vie. Nous construisons notre vie en la centrant sur notre propre personne. Mais comme l'être humain a quand même besoin des autres, qu'il a besoin de relations, l'homme va tant bien que mal essayer de faire la place pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, il va essayer de faire en sorte que cette place soit la moins contraignante, la moins dérangeante possible pour lui-même. S'il faut bien laisser un peu de place à l'autre, nous allons essayer de trouver quelqu'un exactement comme nous, ou qui tout au moins nous ressemble le plus possible. Et à mon avis, c'est pour cela que le monde, et à plus petite échelle, la France, est regroupée en groupes sociaux, régionaux, culturels, voire ethniques. Antagonisme, haine, violence pouvant même être présents entre ces différents groupes. C'est précisément à cette problématique d'un monde divisé que l'apôtre Paul répond dans notre passage. C'est à cette problématique-là. La société, à l'époque de l'apôtre Paul, était fondamentalement divisée. Il y avait les Romains et les autres. Les pays vainqueurs, les pays vaincus, les hommes libres, les serviteurs, les hommes, les femmes. Il y avait les païens, il y avait les juifs. Il y avait de l'hostilité mutuelle entre chacun de ces groupes. et entre les Juifs et les païens, tout particulièrement. L'Église à Éphèse est composée de chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Comment, dans l'Église, unifier deux groupes qui ne se sont jamais mélangés jusqu'à présent? Comment unifier ces deux groupes? Dans la première partie de ce chapitre 2 d'Éphésiens, l'apôtre rappelle les bases du salut. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Par grâce, Dieu vous a sauvés, individuellement. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il vous a aussi amené dans une famille nouvelle, dans la famille de Dieu. Au travers de la croix, vous êtes réconciliés avec le Père. Alors que vous étiez ses ennemis, vous êtes maintenant en paix avec Dieu. La croix de Christ a permis une réconciliation verticale entre l'homme et son Dieu. Mais à travers la croix, vous pouvez maintenant être réconciliés au niveau horizontal entre vous. En effet, verset 14, « Il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » L'hostilité qui existait entre les païens et les juifs était omniprésente à l'époque. Dans les deux sens, d'ailleurs. L'antisémitisme n'est pas un phénomène qui aurait débuté dans l'histoire récente seulement. Mais déjà, à l'époque, cet antisémitisme répugnant existait. Depuis qu'Israël est Israël, elle a été détestée sans raison. C'était le cas déjà à l'époque. Mais cette hostilité était quand même réciproque, mutuelle. La lecture des évangiles nous permet de voir cette division qui existait entre ces deux groupes. Prenons l'exemple du temple, par exemple. À Jérusalem, les païens pouvaient aller dans la première partie de la cour du temple, mais la première cour seulement. En 1871, l'archéologue Charles Simon Clermont-Ganneau a trouvé l'une des plaques qui était fixée dans la cour intérieure du temple. Voici ce qu'il y était indiqué, que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de cette balustrade, de l'enceinte qui sont autour du hieron. Celui qui serait pris serait responsable de la mort qui s'ensuivrait pour lui. C'est pas à vos risques et périls, hein ? Serait responsable de sa mort qui en suivrait. Et nous voyons cela d'ailleurs en Actes chapitre 21, lorsque l'apôtre Paul arrive à Jérusalem avec Trophime. Acte 21, verset 27. « Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient, « Israélite au secours, voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-Juifs dans le temple et a profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandement de la garnison romaine. » Tout séparait juifs et païens. Ce mur qui séparait les juifs et les païens dans le temple représente bien cette hostilité entre les deux groupes. Christ a renversé le mur d'hostilité entre juifs et païens. Voilà ce qu'annonce l'apôtre Paul dans ses versets. Il a détruit ce mur. Jésus, tout au long de son ministère, va annoncer que le plan de Dieu ne se résume pas à Israël seulement. Oui, il a un plan pour Israël, mais pas seulement. Jésus est celui qui va accomplir la promesse formulée à Abraham, bénir toutes les nations de la terre. En Jésus, toutes les nations seront bénies. En Jésus. Dieu a choisi Israël pour être son peuple. Mais Dieu voyait plus large encore. Le plan du salut, Dieu l'a prévu pour tout peuple, pour toute nation. qui reconnaîtraient en Jésus leur Seigneur et Sauveur. Verset 12, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Ces versets sont pour nous, ce matin, une bonne nouvelle. Jésus a ramené les païens à lui. Le mur qui séparait les deux groupes n'est plus. Le mur n'est plus. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? Qu'est-ce qu'il a renversé? La réponse se trouve dans le verset 15. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Paul n'est pas en train d'annoncer que Jésus a aboli la loi morale de Dieu, qu'il aura aboli les 10 commandements. Au contraire d'ailleurs, Jésus est venu pour valoriser la loi, pour montrer son importance et ses richesses, et sa profondeur. Regardez le sermon sur la montagne, où il explique le désir de Dieu derrière la loi. Jésus est venu pour accomplir parfaitement la loi. La loi morale de Dieu est bonne. Elle le sera toujours. Mais la loi cérémonielle, les lois alimentaires, vestimentaires, toutes ces lois qui séparaient le peuple juif des autres peuples, n'ont plus lieu d'être. L'humanité ayant été réconciliée par Christ. Toutes ces lois étaient bonnes. Elles permettaient la survie du peuple. Elles étaient gages de la fidélité au Seigneur. Elles existaient pour éviter que le peuple ne se laisse conformer au siècle présent. Dieu avait choisi son peuple. Son peuple devait vivre pour lui. Cette vérité-là est vraie aujourd'hui encore. Mais la promesse s'est élargie. Dieu souhaite que son peuple vive pour lui. Et pour lui seulement. Mais ce peuple nouveau n'est plus un peuple ethnique. Ce n'est pas une citoyenneté terrestre. Dans l'Évangile, en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction entre juifs et non-juifs. Dieu n'en a fait qu'un seul groupe. Verset 16, il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il a créé un nouvel homme, une nouvelle humanité. Ce n'est plus juif ou païen, mais c'est juif et païen réunis à la croix de Christ pour former cette nouvelle humanité. Au moyen de la croix, Jésus a créé une nouvelle humanité. Il n'y a plus de haine à avoir entre juifs et non-juifs. Dans l'Église, le réel privilège pour tout croyant, juif ou non, ce n'est pas son arrière-plan, mais c'est d'avoir été l'objet de la grâce ineffable de Dieu. Dieu, selon sa propre volonté et par sa grâce, s'est choisi et racheté un peuple nouveau en Jésus-Christ, son Fils. En Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs. Peu importe notre famille, peu importe notre culture, notre héritage, notre sexe, notre âge, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous avons, Jésus-Christ, l'essentiel en commun. Au pied de la croix, tous sont bienvenus. Au pied de la croix, tout orgueil est abaissé. Tous peuvent venir à la croix de Jésus. À la croix, cette nouvelle humanité voit le jour. À la croix, par la mort de Jésus. La Bible nous parle sans cesse, et c'est le cas à nouveau dans ces versets d'Éphésiens chapitre 2, du fait que des hommes sont sauvés, adoptés, aimés, régénérés, déclarés justes par Christ. Pourtant, et c'est là ce qu'il y a de surprenant, Dieu n'aurait pas dû sauver quiconque. Dieu ne doit le salut à personne. À personne. Mais dans sa grâce et dans son divin dessein, Dieu a décidé de se racheter un peuple. Nous sommes aujourd'hui un peuple qui a été choisi, non pas grâce à nos mérites, non pas grâce à nos efforts, non pas grâce à un héritage familial prestigieux, mais tout simplement par grâce. Par grâce. Tous, nous méritons la mort. Personne ne mérite le salut. Si ce n'est Jésus, qui a vécu, lui, une vie pleine et en parfaite obéissance au Père. Mais c'est là que nous voyons la grâce de Dieu apparaître dans toute sa splendeur. Si nous pouvons nous dire chrétiens aujourd'hui, si nous pouvons former ce nouvel homme, cette nouvelle humanité, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, a choisi de nous sauver. Il a porté son regard d'amour sur nous de manière injustifiée, mais de manière inconditionnelle. Inconditionnelle. Ou comme le dit l'apôtre au chapitre précédent, il le dit si parfaitement, Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 7, « En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu a choisi des hommes précis, non pas parce qu'ils ont fait de bonnes actions, parce qu'ils seraient spéciaux, ou parce que Dieu savait qu'ils accepteraient Jésus, mais uniquement parce qu'il les aime et que son amour est libre, gratuit et magnifique. Un peuple nouveau fondé sur la grâce. Sur la grâce. Si nous sommes sauvés par grâce, de quoi pourrions-nous nous vanter ? De rien. De rien si ce n'est justement de la grâce. Quel motif de gloire pour les chrétiens d'origine juive à Éphèse ? Jésus-Christ. Et rien d'autre que Jésus-Christ. Quel motif de gloire pour les chrétiens d'origine païenne à Éphèse ? Jésus-Christ. Et rien d'autre que Jésus-Christ. En Jésus, juifs et non-juifs, ont tout en commun. Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà la vérité que les chrétiens d'Éphèse devaient entendre. Il n'y a pas deux groupes dans l'Église. Toutes ces divisions terrestres n'ont plus lieu d'être dans l'Église. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens. Vous formez une seule entité, un seul homme nouveau. Tous, vous avez été sauvés de la même manière par le sacrifice de Christ. Certains étaient peut-être près, d'autres étaient loin, mais tous ont été sauvés par la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tous vous êtes appelés à la même chose. S'élever pour être un temple saint dans le Seigneur, pour former une habitation de Dieu en esprit. Lorsque nous nous approchons aujourd'hui de Dieu, c'est en tant que nouvelle humanité que nous le faisons. Verset 18, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Par le même esprit. Et notons la formulation trinitaire dans ces versets. À travers lui, Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. À travers Jésus, nous avons accès au Père par l'esprit. Par la croix, nous avons accès les uns et les autres accès au Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, était à l'œuvre pour réconcilier l'humanité. Réconcilier l'humanité avec elle, le Dieu trinitaire, réconcilier l'humanité elle-même. Ce qu'annonce Paul ici est époustouflant, époustouflant. Encore plus lorsque l'on se souvient que c'est lui précisément, l'apôtre Paul, qui écrit ces mots. Paul, avant sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, était zélé, pleinement participant dans cette hostilité. Paul, le plus avancé dans le judaïsme de son âge, membre du parti des pharisiens, passé par l'école du grand maître Gamaliel, Paul était animé d'un zèle inégalé jusque-là. Paul était quelqu'un qui avait pris les devants pour pouvoir les mettre à mort ces païens qui s'étaient emparés de sa foi et qui se plaisaient à la pervertir à ses yeux. et ainsi Paul de participer à la lapidation d'Étienne, ce juif d'arrière-plan grec converti au christianisme. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Cette haine qui motivait l'apôtre Paul n'est plus, parce que Jésus-Christ a réconcilié l'humanité en clouant la haine et l'hostilité à la croix. Des deux groupes, il n'en a fait qu'un. Verset 19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Il aurait été possible de passer toute une prédication rien que sur ces versets. Et je m'excuse de ne pouvoir ce matin qu'effleurer ces derniers. Je prie que Dieu vous donne, tout au long de cette semaine, le désir de creuser chaque vérité énoncée dans ces versets. Si Christ est notre paix, alors nous ne pouvons regarder à un frère ou une sœur d'un autre contexte, d'une autre classe sociale, avec un ou des préjugés négatifs. Parce que l'Évangile a détruit ces barrières. Toutes ces barrières. Toutes ces divisions que l'on retrouve dans la société, dans notre société, n'ont plus lieu d'être dans l'Église. Nous ne sommes plus des étrangers. Mais tous nous sommes concitoyens des saints. Nous avons dans l'Église la même origine, Jésus-Christ. Voilà ce qui nous définit avant tout, Jésus-Christ. Avant d'être concitoyens français, anglais, américains ou tunisiens, nous sommes concitoyens des saints. L'Église de la rue de Sèvres est dans Paris comme une ambassade du royaume de Dieu. Une ambassade du royaume de Dieu. Notre identité se retrouve aujourd'hui ancrée en Jésus. Et de même, pour toute personne ayant reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, son identité est maintenant ancrée en Jésus. Nous faisons partie d'une humanité nouvelle. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Quelle vérité merveilleuse, n'est-ce pas ? Membres de la famille de Dieu. Lorsque vous rendez visite à une autre église, ce sont là des frères et sœurs que vous avez. Jésus a amené la paix avec Dieu, la paix entre nous. Notre paix, ce n'est pas un programme politique, ce ne sont pas des réformes économiques, ce n'est pas notre retraite. Notre paix, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Notre paix, c'est lui. Notre paix avec Dieu, notre paix avec les hommes, c'est lui, Jésus. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, est pécheur, chacun. Peu importe qui vous soyez, tous nous sommes pécheurs. Il n'y a qu'un seul chemin possible pour le salut. Celui qui est venu réconcilier, celui qui est venu établir la paix, Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. L'Église aujourd'hui est en travaux. Et je ne parle pas des murs ou de la façade. Le peuple de Dieu aujourd'hui est invité à s'édifier sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous regardions précisément à cette notion il y a 10 jours lors de l'étude biblique sur 1 Pierre. Nous, Église de la rue de Sèvres, nous sommes en chantier. Nous sommes aujourd'hui à l'école de la grâce. Et il nous faut toujours persévérer à l'école de la grâce. Dans le ministère, il y a deux choses qui m'attristent plus que d'autres. Et ces deux choses sont en lien avec ce qui est énoncé dans ce chapitre. Tout d'abord, il y a la grâce comme une excuse pour pécher. Ce qui revient à dévaluer énormément la grâce. Lorsque des personnes que je considère comme des frères et sœurs dans la foi montrent par leurs œuvres qu'en réalité, ils préfèrent endurcir leur cœur plutôt que chercher la volonté de Dieu pour eux, cela m'attriste. Je sais que la vie est dure. Je sais que les tentations sont nombreuses. Et trop souvent, nous offensons Dieu. Je suis conscient de cette réalité-là. Mais c'est lorsque l'on affirme ne même pas vouloir essayer, quand péché n'est même plus un problème pour nous, que cela m'attriste profondément. Affirmer qu'il n'y a en réalité dans un domaine dans notre vie où nous préférons suivre les désirs de notre cœur plutôt que la volonté claire de Dieu. Cela revient à dire qu'il n'y a pas réellement besoin de réconciliation avec Dieu, qu'il n'y a pas là de vrai problème. Dieu souhaite aujourd'hui un peuple qui vive pour lui. Dieu nous a sauvés, non pas pour que nous restions dans le péché, mais pour que nous en sortions. C'est ce qui est dit au verset 10 de ce chapitre. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La grâce réellement comprise dans toute sa beauté ne nous amènera pas à pécher, mais au contraire à chercher à vivre pour lui. Affirmer la grâce et vouloir continuer à vivre cette vie qui nous amenait à la mort, cela revient à dévaluer énormément la grâce. C'est dire, dans ce domaine, je n'ai pas vraiment besoin de me laisser transformer. Mais si mon péché n'est pas si grand, alors la grâce n'est pas si grande, elle non plus. La grâce prend toute sa splendeur, sa profondeur, sa force et sa beauté à la compréhension de notre dépravité totale, de notre corruption totale. Alors que nos œuvres, même les meilleures d'entre elles, nous menaient à la mort, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Comprendre la grâce telle qu'elle est vraiment ne va jamais amener à justifier son propre péché. Jamais. Et la deuxième chose, là encore en lien avec notre texte, c'est voir notre lenteur à vivre la grâce dans l'Église. Notre lenteur à vivre la grâce. Et comprenez-moi bien, je n'ai pas de situation précise en tête. Et cette lenteur, je l'aperçois dans mon propre cœur avant tout. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Quelqu'un vous offense, nous offense, et c'en est fini pour lui. Catalogué à jamais comme étant de ceux à qui nous ne parlons plus, ou du moins pas avant longtemps. Et peu importe si cette personne demande pardon, le mal est fait. Ou encore de voir quelqu'un quitter l'Église pour un détail, parce que l'on n'a pas suivi son avis, mais plutôt celui de quelqu'un d'autre, parce qu'on a oublié quelque chose, ou je ne sais quelle autre chose. Nous sommes un peuple racheté, non pas par mérite, mais par grâce. Sommes-nous réellement conscients de cela ? Dieu ne nous devait rien, si ce n'est la condamnation éternelle. Nous avons été graciés. Sommes-nous indifférents à la grâce ? Sommes-nous devenus indifférents à la grâce ? Sommes-nous prêts à la vivre dans l'Église ? Dieu a réconcilié les deux groupes. Il a réconcilié l'humanité tout entière. Vivons-nous cette réconciliation entre nous ? Ne nous trompons pas. Dieu souhaite que son peuple, aujourd'hui, s'élève pour être un temple saint. Dieu souhaite que son peuple s'édifie sur Jésus-Christ, que son peuple s'édifie sur la grâce de Christ. Les yeux fixés sur Jésus, cherchons à vivre la grâce à notre tour. Vivons-la dans l'Église quand elle aura besoin d'être vécue. Entraînons-nous à la grâce dans l'Église. Et ne nous arrêtons pas là. Si nous ne vivons pas la grâce dans l'Église, alors il nous sera impossible de la vivre en dehors de l'Église. face à l'affront, à l'outrage, face à l'insulte, face à la violence qui pourront se manifester un jour. Suivons l'exemple de Jésus et vivons la grâce. Vivons la grâce. C'est en lui, Jésus, que nous devons puiser notre force. C'est en lui que nous devons bâtir notre vie individuelle ainsi que notre vie communautaire. C'est en lui et pour lui que nous devons vivre aujourd'hui. C'est en Jésus que tout l'édifice s'élève pour être ce temple saint dans le Seigneur. Ce temple, ce n'est pas un bâtiment fait de briques. Ce n'est pas une église, même la plus magnifique, ni même un nouveau temple de Salomon. Mais c'est le peuple des graciés de Jésus-Christ. Ma prière pour vous et pour moi, c'est celle que l'apôtre Paul exprime au chapitre précédent, Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 19. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.